Bonjour, chers amis de Radio Mariage. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année, une année sportive sous le regard de Dieu et puis avec un contexte merveilleux qui est celui des Jeux Olympiques, tandis que nous sommes encore dans la Coupe du Monde de rugby. La France est au cœur donc du bouillonnement sportif. La France est terre d'hospitalité et nous, est-ce que dans notre cœur, nous sommes des terres d'hospitalité? Est-ce que nous sommes ouverts? Parce que nous sortons également du congrès mission qui est un grand rassemblement pour libérer décapsuler un peu ces énergies missionnaires. Donc on est vraiment dans un bouillonnement, dans une rentrée avec beaucoup de très belles choses, beaucoup de très belles choses. Et puis je vais commencer par quand même un événement important, parce que ça fait longtemps qu'on l'attendait, c'est le pape François qui est venu à Marseille. J'ai l'impression d'être dans un journal, alors que c'est juste une chronique sur le sport et la foi, mais je ne peux pas oublier cette venue du pape François au stade Vélodrome. Et je sais que vous êtes nombreux auditeurs de Radio Maria dans le sud. Peut-être certains d'entre vous vous êtes déplacés pour ces rencontres méditerranéennes et également pour vivre ce moment de communion et ce moment de liesse dans cette arène sportive qu'est le stade Vélodrome. L'écrivain Antoine Blondin parlait des stades comme des cathédrales de vent. Non pas creux, mais avec une vraie belle respiration. Eh bien, c'est vrai que nous avons vécu finalement tous ceux qui y étaient. J'ai eu la chance d'y aller et puis d'accompagner les prêtres et les évêques dans la procession. On a tous vécu un moment finalement marqué du sceau de la foi et puis avec quand même un élan sportif parce qu'on était dans l'enceinte de l'OM. Sur les terres de l'OM pour célébrer la venue du pape et puis pour partager une messe d'action de grâce avec une magnifique homélie du pape François qui a salué la France et on était heureux de le vivre. Vous savez l'importance du patriotisme dans le monde du sport, l'importance de l'identité. Donc il a parlé à Marseille, il a parlé à toute la France. Et puis, il nous a parlé je retiendrai ça, on a souvent évoqué l'importance de la rencontre dans le sport. D'ailleurs, souvent, un match, ça s'appelle une rencontre. Il a évoqué dans son homélie la rencontre entre Marie et sa cousine Elisabeth au moment de la visitation. Et je pense que ce qu'on retiendra, c'est ce mot de tressaillement de joie, de tressaillement qui nous met en marche. C'est aussi le tressaillement qui amène la vie, le tressaillement qui est signe de vie, donc de tendresse, c'est le tressaillement aussi de Jésus, évidemment, dans le sein de Marie, qui est ce signe de la vie donnée, et puis cette manifestation de joie. Et donc, on a tous été traversés d'un tressaillement en voyant apparaître la papa mobile du pape François dans les travées du stade Vélodrome. On a tous, on avait été chauffés par Mehdi Djadi, par Gad Elmaleh, par Glorious. Donc voilà, on se retrouvait un peu, on a vu les tifos, on était tous un peu des supporters du pape François, mais avant tout supporters du Christ. Heureux de nous rassembler comme nous nous sommes rassemblés au congrès mission. Et là, vraiment, on trouve ce parallèle entre la liesse footballistique et puis la liesse de l'Assemblée du peuple de Dieu, heureux de se retrouver, non pas pour se regarder, pour se contempler, pour se protéger, un peu comme dans un enclos, mais vraiment, c'est un peu, vous savez, la respiration du cœur, diastole, systole, on a besoin de se retrouver en famille, c'est comme une réunion de famille pour ensuite mieux repartir, pour porter la bonne nouvelle, pour évangéliser, pour porter ce maillot qui est le maillot du salut, le maillot de la croix. Et derrière la croix, il y a toujours la joie. Et c'est vraiment dans cet esprit que tous les catholiques qui pouvaient de France, en tout cas de Provence, se sont rassemblés dans le stade Vélodrome. Je vais faire une petite aparté parce que je pense que dans tout le discours d'hospitalité, de générosité que nous a transmis le pape François, parfois ça suscite certaines craintes et il est important de comprendre qu'il y a vraiment l'ordre de l'hospitalité, de la charité, qui est le registre sur lequel s'exprime le pape François. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle l'éthique de conviction, que disait un philosophe, qu'exprimait un philosophe qui s'appelle Max Weber. Et puis il y a un autre registre qui va être le registre des politiques, le registre de personnes qui sont en responsabilité, qui vont avoir peut-être plus la connaissance du terrain, du réel, et qui vont être sur le registre plus de la responsabilité, ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité, et qui vont entendre ce que va dire le pape François, qui éclaire nos consciences, et qui va nous dire on ne peut pas laisser ces immigrés mourir en mer. Mais ces personnes vont réussir à, ben, ils vont étudier cette comment fonctionnent ces flux d'immigration avec les passeurs, avec les ONG qui peuvent être, quels sont les liens aussi avec les passeurs, avec aussi des pressions médiatiques, des autorités des différents pays, que ce soit des autorités européennes ou bien des pays qui envoient leurs réfugiés. Quel est leur rôle? Est-ce que c'est clair? Quelles sont des contreparties? Quels sont les deals? Et c'est là, c'est le pouvoir de la responsabilité des politiques de faire en sorte que ces flux d'immigration ben, soient contenus. Et puis cette réflexion de fond, est-ce que l'immigration est un bien ou un drame? Et donc je voulais quand même le dire parce qu'il y a beaucoup de fidèles qui parfois sont un peu perdus. Et je pense que dans l'esprit sportif, la question de l'accueil, on évoquait la question de l'hospitalité, elle est fondamentale, elle est très très importante, mais ça suppose, et on le vit sur nos stades, on le vit dans le... ça suppose qu'il y ait une identité et qu'il y ait une loi et une règle. Je l'ai souvent dit à cette antenne, l'identité, bah c'est ce qui rassure, c'est ce qui unit. On sait qu'on n'est pas perdu, il n'y a pas un grand flou. Et donc on quitte une famille, et ça arrive de quitter une famille quand on change d'entreprise, quand on se marie, on rentre dans une autre famille, et puis on prend plus de distance par rapport à sa famille, et puis on retrouve un cadre. Et je crois qu'il faut vivre ça sereinement, à la lumière de la sagesse de l'Église, en disant, ben voilà, c'est exactement ce que veut nous dire le pape François. Et quand il y a des changements de joueurs, parfois il y a des transferts de joueurs d'un club à l'autre qui ne se font pas toujours paisiblement, et ben il faut toujours se... Penser à cette hospitalité, c'est mon prochain, mais quand on l'accueille, je l'accueille dignement parce que je peux l'accueillir dignement. Et puis il y a des conditions d'accueil qui est qu'on, bah, parce qu'on a des choses à faire ensemble, on respecte une loi, il y a une grammaire, il y a des règles, il y a une identité collective qui est celle de l'équipe. Et je voulais, en préambule et en revenant de cette joie et de cette liesse débordante marseillaise, partager cela avec vous et garder toujours, en tout cas, cet esprit de tressaillement dans son cœur, c'est ce tressaillement du jeune garçon qui va faire sa jeune du jeune sportif, garçon ou fille d'ailleurs, qui va faire son premier match. On pense toujours au coup de sifflet qui est donné, au premier plaquage au rugby, au premier tacle, à l'espèce de frénésie, ce tressaillement qui va nous traverser quand le coup de départ, le coup de revolver d'une course va être donné et qu'on va s'élancer vers la ligne d'arrivée. Voilà, où on oublie tous les soucis du monde et on est complètement donné à ce qu'on est. C'est-à-dire, je me souviens du nageur Bernard qui disait, dans mes compétitions de natation, je suis pleinement humain. On est unifié corps, âme, esprit et on se livre quelque part pour le dépassement de soi. Et puis dans un sport d'équipe, il y a toujours cet inconfort de la vie d'équipe pour être prêt à accueillir les autres, voilà, à se déranger, parfois accepter aussi de perdre sa place parce qu'on n'est plus au niveau pour que d'autres la prennent, mais en se disant toujours que c'est pour faire grandir l'ensemble, c'est pour faire vraiment grandir l'ensemble collectif, et c'est toute la sagesse de l'Église autour également du bien commun. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je vais donner de ce que je suis, de mes talents, de mon temps, de mon énergie, de mon histoire, pour faire grandir ce corps collectif que je représente. Voilà, donc magnifique moment marseillais, magnifique moment avec tous ces frères provençaux. On a vu des moments, voilà, avec cette liesse populaire, cette piété populaire et cette joie d'accueillir, bah, ce père. Le pape qui nous est donné, qui est avec une bonhomie, une légèreté, et c'est évident que cette rencontre du pape François, supporter du club de San Lorenzo, vous savez, c'est un pays de fièvre, c'est un pays de... on transpire. Le pape François a toujours préféré les matchs de foot, vous savez, sur des terrains un peu défoncés, où les buts sont faits avec deux canettes de coca ou de bière. Et on joue dans un nuage de poussière. Ça c'est ce qu'il préfère. Il préfère cette vision, vous voyez, du désordre bouillonnant plutôt que des clubs bien lisses, propres, avec un gazon à l'anglaise et des lignes parfaitement tirées. Voilà, c'est pour comprendre un peu cette forma mentis du pape François et puis mieux comprendre aussi pourquoi cette rencontre avec les Marseillais ne pouvait être que merveilleuse, parce qu'à Marseille, ça bouillonne. Il y a du désordre, il y a de l'inconfort, il y a de la générosité, on tombe, on se relève, on repart, etc. Et avec cette mixité sociale, ce cosmopolitisme qui est vraiment typiquement marseillais. Et c'est ça, c'est cette rencontre qui a fait que cette joie a débordé. Il fallait le comprendre, il fallait en être, et j'ai eu la chance d'être dans cette partie, et j'en suis revenu profondément, profondément heureux, et je voulais vous le partager. En ce début d'année aussi, on vit un autre événement, chers amis, c'est la Coupe du Monde de rugby. La France accueille de nombreux pays, on a pu voir des matchs. Alors, quand on était dans le football, on voyait des matchs quasiment tous les jours. Le rugby, c'est un sport de combat et c'est un sport collectif de combat. Donc, les corps, après ce combat, ont besoin un peu de se remettre. Il y a des contusions, on doit prendre des bains d'eau glacée, on doit remettre le corps en marche après tous les coups qu'on a pris pendant 80 minutes, avec parfois 40 minutes de jeu effectif. Donc, c'est quand même, c'est très tonique le rugby. Et donc, c'est surtout le week-end qu'on peut vivre ces matchs. Et là encore, j'étais à Nantes pour le congrès mission et j'ai vu les Argentins, les Chiliens. On voit une magnifique fraternité qu'on retrouve vraiment dans le rugby. Il y a un esprit dans le rugby. Ce qui est très intéressant d'un point de vue, à analyser, c'est-à-dire que c'est comme si toute la violence que les gens, c'était la couture, je crois, qui exprimait ça, toute la violence que les gens portaient en eux, parce qu'il y a une dimension d'exutoire, une dimension cathartique dans le rugby, elle était finalement transférée sur le terrain. Elle quittait les tribunes pour être transférée sur le terrain, où là, effectivement, on s'envoie, il y a des chocs, il y a une vraie violence. On voit aujourd'hui les gabarits qui s'étoffent, etc. Ça va très vite et puis ça cogne. Et puis, donc, elle allait sur le terrain et ce qui fait qu'en tribune, on sort de là avec, on y rentre d'abord avec une forme de légèreté. Il y a une fraternité des supporters. Donc, le combat se fait sur le terrain. On donne tout. Avec beaucoup beaucoup de générosité, on cite souvent l'évangile de Saint Jean. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Effectivement, on donne, on prend des coups, on en donne. Et puis cette violence qui sort, eh bien finalement, elle n'est plus dans le cœur des supporters. Peut-être l'a-t-elle été au début, mais en tout cas, il y a quelque chose de très cathartique dans le rugby. Et on voit dans les travées des stades, une bonhomie, beaucoup d'autodérision, beaucoup de rigolade. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez pu vivre de près ou de loin. Il y a toujours un feuilleton qui est merveilleux, qui est cette épopée d'une équipe qui, avec des remplaçants, avec des sélections, il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, des drames. On a vu d'abord la blessure de Ntamack, ensuite la blessure de Dupont. C'est un feuilleton absolument extraordinaire qui nous tient tous en haleine. Toutes les mamans, Dupont et un peu leur enfant, elles disent il faut qu'il revienne, mais en même temps on veut pas qu'il se blesse, et sa santé, et sa commotion. Et ça crée du lien, vous voyez, ça crée du lien. Et je trouve qu'il y a quelque chose vraiment d'intéressant. Alors peut-être que le parallèle est osé, mais ils sont quelque part, les joueurs de rugby, un peu. Alors ils sont 15 sur le terrain, il y avait 12 apôtres, mais il y a ce côté. On a tous nos tempéraments, on a tous notre caractère, ils sont tous différents à des postes donnés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de la joie aux gens, ils diffusent quelque chose, chacun se reconnaît dans un joueur, dans un poste, là encore, selon son histoire. Et il y a quelque chose de très généreux, dans ce sport, dans cette épopée humaine que l'on voit avec un entraîneur qui s'appelle Fabien Galthié, qui est le garant de l'unité. Et souvent, vous savez, on dit dans le sport, il y a un esprit d'équipe qui fonctionne. Les joueurs disent qu'ils s'aiment, mais pourquoi est-ce qu'ils s'aiment? Ils s'aiment parce qu'ils gagnent. Le jour où ils perdent, voilà, l'âme, elle n'est pas si généreuse, elle n'est pas si bonne. Parfois, elle est un peu sombre, égoïste, et donc on se renvoie la responsabilité de l'échec. Donc, faut pas. Il y a une forme de lyrisme dans ce que je vous dis. Je suis extrêmement réaliste sur le fonctionnement des équipes, mais ce que je vois, c'est cette épopée humaine avec Fabien Galthié qui garde la juste distance. C'est aussi nos vies paroissiales, nos vies communautaires, nos vies familiales. Il garde la juste distance en responsabilisant les joueurs et en même temps en leur offrant le cadre et puis surtout en sélectionnant les joueurs. Et ça, c'est intéressant parce que Il dit à un joueur, et ça peut parler au père de famille, il dit au joueur, ben, j'ai confiance en toi. Ça peut parler aux prêtres dans les missions, ça peut parler aux directeurs, aux évêques dans les nominations. J'ai confiance en toi, j'ai besoin de toi sur ce terrain, avec tes talents, avec ton histoire, et parce que tu seras associé à tel et tel joueur avec lesquels tu as aussi une complicité, tu as des liens de fraternité. Et lors du congrès mission de Marseille, les prêtres, vous savez, il y a toujours une journée des prêtres avant le congrès mission, et les prêtres du Sud-Est ont eu la grande joie, c'est un privilège de rencontrer un pilote de chasse qui a été pendant 2 ans leader de la patrouille de France. Et il leur a fait un petit topo sur sa mission au sein de la patrouille de France qui avait 2 dimensions. C'était d'abord la maîtrise de ce savoir-faire. Pour finalement, parce que c'est intéressant, il y a une dimension un peu esthétique de liesse et de joie dans la patrouille de France. Donc il y a le savoir-faire vraiment technique avec cette trajectoire, etc. Et puis il y a l'interdépendance, on est tous liés les uns aux autres. Et notre lien, notre solidarité, notre interdépendance, elle offrira de la joie, de l'émotion, même une identité collective à toutes les personnes qui nous verront. Et les prêtres ont été extrêmement touchés par ce témoignage et je pense ont été assez retournés aussi. Mais évidemment, on a fait le parallèle avec leur ministère de prêtres et on a pu voir dans ce congrès mission, avec cette prière de prêtres, on a vu, moi j'étais à Tours, j'ai vu 3 évêques ensemble, de voir cette solidarité, cette fraternité entre évêques, ça réjouit le cœur et puis ça apporte beaucoup de sécurité. On a un monde qui est marqué par la solitude et puis par une forme de peur. Voilà. Et de voir la fraternité en acte, pas juste une fraternité posée, mais de voir une fraternité en acte, en mouvement, c'est garant de beaucoup de sécurité. Et je pense que dans notre Église, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose que le sport nous enseigne. Le sport nous enseigne sur les vertus humaines et l'Église est une aventure fondamentalement humaine avec un Dieu qui s'est fait homme. Ne l'oublions jamais. Et lors de cette journée des prêtres du congrès mission à Nantes, il y a eu aussi toute une journée dédiée au rugby, avec énormément de petits exercices qui ont permis à tous ces prêtres de reprendre possession de leur corps, de comprendre la mécanique du rugby avec ces passes qu'on doit faire toujours en arrière, ces offrandes de balles que l'on fait pour que l'autre continue à avancer et fasse que le jeu perdure. Donc ça suppose, c'est un geste de charité, que la passe soit bien faite selon les règles et que celui qui est en face soit attentif pour bien recevoir la balle. Et donc c'est toute la charité que nous pouvons déployer dans les liens que nous avons les uns avec les autres dans notre vie de tous les jours et puis dans notre travail missionnaire au service du rayonnement de l'Église en fleurissant vraiment là où nous sommes plantés. N'oublions jamais, on n'est pas là pour on est là pour rayonner là où on est, quoi. Et lors de l'introduction du congrès mission, ça a vraiment été dit dans cette exhortation un peu d'inauguration, on doit aller aux extrémités de la terre et l'extrémité de la terre, c'est quand je suis marié, c'est prendre soin de mon conjoint. L'extrémité de la terre, c'est appeler mon père, ma mère, leur dire merci, merci de la vie que tu m'as donnée. Poser des actes de gratitude. Dire à son enfant, je te bénis, mon fils. La mission aujourd'hui, ça commence par ceux qui sont proches. Il y avait une phrase de Gustave Thibon qui disait aujourd'hui, à force, c'était avant Internet, hein, c'est assez intéressant. À force d'être proche de ce qui est loin, nous pourrions devenir loin de ce qui est proche. À force d'être proche de ce qui est loin, nous pourrions être loin de ce qui est proche. Et on voit qu'Internet, on voit que la communication abolit les distances. On voit aussi que parfois il y a des jeunes qui veulent un peu faire le tour du monde, un peu se mettre en scène, lever de l'argent en disant regardez, il y a du tourisme un peu humanitaire. Mais Saint François de Sales nous disait fleurissez là où vous êtes plantés. Commencez autour de vous à rayonner, à servir. Et c'est comme ça, autour de petits cercles concentriques. On est tous faiblards, hein, on se casse la gueule, on retombe, on se relève, on avance. Mais c'est comme ça que le monde est transformé. Et la vocation aussi chrétienne de la France, eh bien, on était autour de sanctuaires, de monastères, de saints. Et c'est comme ça que ça s'est diffusé, ne l'oublions pas. Donc voilà pour le rugby, qui nous embarque. Et puis comme je parle à l'antenne de Radio Maria à des personnes qui aiment la vie et qui aiment les projets, moi j'invite vraiment les prêtres qui m'écoutent, les paroissiens à occuper les mètres carrés dont dispose encore l'Église pour organiser des fan zones et diffuser tous les matchs de rugby, en particulier ceux de l'équipe de France. Parce qu'il y a une vraie joie à regarder des matchs ensemble. On partage, voilà, des tomates cerises, des chips, des bières, et puis on chante les hymnes ensemble, on peut faire une petite prière, il y a toujours, on retrouve la prière à Notre-Dame de l'Ovalie, que je réciterai tout à l'heure, et on est heureux je crois que la vie paroissiale, c'est ça, on est heureux de partager des bons moments, et quand l'actualité, voilà, nous offre ces moments, bah, il faut en être, voilà, il faut en être, et puis il faut faire vraiment, faire rayonner nos vies paroissiales, faire rayonner notre amour, et le sport est un terrain authentiquement missionnaire, et je voudrais vous développer en ce début d'année olympique, un peu justement la généalogie et puis l'inspiration de ce projet que l'Église a baptisé Holy Games. Holy Games, Holy c'est saint, Games ce sont les jeux, et c'est un projet qui va aussi perdurer au-delà des Jeux Olympiques et qui a vocation à rapprocher le monde du sport avec le monde de l'Église, à rapprocher les chrétiens du monde du sport. Et je crois que ce dialogue, alors c'est une forme d'écuménisme entre deux grandes réalités qui traversent le monde, qui traversent le cœur et le corps des hommes, le sport et la foi, ces deux réalités qui ont besoin de dialoguer ensemble. Et je suis très heureux de ce projet Holy Games. Il y aura une dimension pédagogique, il y aura une dimension d'hospitalité, et puis il y aura une dimension missionnaire et de service des pauvres. À cette antenne, pendant cette année, je vais essayer d'inviter, dans le cadre un peu d'interviews légères, des acteurs de Holy Games. Ça peut être, il y aura des champions, il y aura des jeunes engagés dans ce projet. Il pourra y avoir des jeunes religieux, des prêtres qui nous témoigneront de leur foi. Et puis je me ferai un peu l'intervieweur. Je vais diminuer pour que eux grandissent. Et puis pour vraiment essayer de nourrir ce dialogue entre la réalité sportive et la réalité chrétienne. Ce sont vraiment deux réalités qui nous rendent heureux, qui nous font tressaillir. Donc n'ayons pas peur, tout simplement, d'en parler et de le partager. Alors, Holy Games, c'est né donc il y a plusieurs mois. Et le projet a été un peu dévoilé d'abord dans une rencontre entre les gens du monde du sport et puis des personnalités d'église. Ça s'est fait à la Nonciature. Et on a lancé ce projet avec cette intuition vraiment d'accompagner l'hospitalité avec ce que l'église a de plus beau à partager. Alors elle a des très belles églises, elle a des œuvres éducatives. On a encore plus de 2 millions de jeunes qui sont scolarisés dans l'enseignement catholique. L'église a une présence auprès des plus pauvres, dans les hôpitaux, dans plein d'associations qui se tournent vers les personnes en situation de vulnérabilité. Et donc l'idée, c'est vraiment de regarder un peu où sont les actifs de l'Église et de se dire comment est-ce que là où est l'Église, comment l'Église, là où elle est plantée, pourra essayer de découvrir la réalité sportive, peut-être se réaffermir à la lumière de la réalité sportive. Je pense souvent à Charles de Foucault, qui avait été réaffermi dans sa foi catholique en regardant la piété et la ferveur des musulmans. Et moi, je l'ai dit récemment, dans le cadre d'une conférence, moi, j'ai été réévangélisé par des sportifs de haut niveau, par leur rectitude morale, leur cohérence entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils vivaient, entre ce regard de pureté qu'ils pouvaient avoir vis-à-vis des gens qu'ils croisaient. Et je me suis dit, waouh, ils sont exemplaires, et moi, je suis adossé à la foi catholique, et je me sens très loin d'eux. Et donc, ça m'a aussi permis, en les regardant, de me dire, peut-être que leur exemple de comportement, arrosé à la sagesse de l'Église, arrosé et enraciné un peu plus dans la foi, ça peut être un cocktail explosif. Et vraiment, l'éthique, le comportement de ces sportifs a été un témoignage de cohérence et qui m'a profondément édifié. Et ça fait écho à tout ce que dit un peu le cardinal Aveline sur cette culture du dialogue où on se laisse bousculer par les autres. Et moi, ce sont des sportifs qui m'ont bousculé. Et on parle souvent de contre-témoignages dans l'Église, de personnes qui ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Eh bien, moi, j'ai vu des personnes qui vivaient ce qu'ils prêchaient. Alors, on ne peut pas généraliser, hein. Tout le monde est pécheur, tout le monde est faillible. Mais moi, c'est mon témoignage. Voilà. Et donc, depuis quelques années, en regardant cette réalité sportive, je suis vraiment convaincu que mélanger, confronter à la réalité chrétienne, ça peut être un cocktail explosif, dynamisant, qui remet fondamentalement de la joie dans les cœurs. Holy Games, c'est bien dans l'histoire des Jeux Olympiques. Moi, je voudrais aujourd'hui parler de un peu de la genèse des Jeux Olympiques. C'est un peu méconnu, mais c'est l'histoire d'une rencontre avec quelqu'un qui s'appelait Pierre de Coubertin, le baron de Coubertin, qui était fondamentalement un intellectuel. C'était quelqu'un qui était psychologue, qui était aussi pétri d'histoire. Et Pierre de Coubertin voyait un peu une jeunesse de France désœuvrée. On était dans un contexte aussi d'une défaite française qui avait profondément marqué les esprits, qui était la défaite de Sedan en 1870. Et puis il avait vu que une partie de cette jeunesse, eh bien, était un peu reprise en main pendant des collèges anglais. Et puis il était féru d'hellénisme. Il avait vu les premiers Jeux Olympiques avec ce mélange entre la pensée, la philosophie et puis le sport. Et il s'est dit, je pense que le sport peut être un outil important pour réaffermir les personnes, remettre un peu debout le peuple de France. Et puis très vite, il s'est dit, mais ça peut être aussi un outil de fraternité incroyable pour créer un lien entre les peuples et puis confronter, j'allais dire, sereinement et pacifiquement les peuples. Et c'est très intéressant parce que il n'était pas là pour gommer des identités, il était là pour que, et dans l'adversité sportive, dans la confrontation sportive, c'est ce qu'on vit, il est là pour que les identités soient affirmées, soit intégré, soit éventuellement revendiqué, et que ces identités se confrontent à d'autres identités sur un terrain avec une dimension ludique et en gardant, et ça c'est vraiment une marotte, et quelque chose de très important dans l'esprit de Coubertin, cet esprit de gratuité, cet esprit amateur. Coubertin était très très vite un profond adversaire du professionnalisme sportif. Pour lui, le sport, c'était vraiment quelque chose qui devait se vivre dans un esprit de gratuité, qui devait convoquer les valeurs morales davantage que des valeurs pécuniaires. Et pour lui, l'argent dans le sport, déjà, il l'avait compris, aurait pu conduire au dopage et finalement à la dénaturation de ce qu'est l'homme. Il était là pour valoriser. Et le terrain de nos compétitions, ça sert à quoi? Ça sert à valoriser, à révéler des talents face à l'adversité. Et il était là pour fondamentalement faire sortir ce qu'il y a de meilleur dans l'homme à travers les compétitions. Et puis en insistant énormément sur toutes les vertus de l'entraînement dans l'ombre, de l'entraînement dans le renoncement, dans le fait de muscler sa volonté. Et là, on retrouve totalement un peu l'ascèse que l'on vit dans les monastères. Ce renoncement, cette vie très réglée, l'acceptation de règles, l'acceptation de limites. On se lève tôt, on se couche à peu près à la même heure. On sait que le corps a un équilibre. Le corps a besoin d'un rythme, comme le rythme d'un train, comme le rythme d'une course à pied. Il y a un moment dans la course, eh bien, il y a des choses qui s'équilibrent parce qu'on trouve son rythme, on avance bien, on n'est pas en surchauffe, on n'est pas en sous-chauffe. Et c'est ce qu'il a voulu un peu, c'est la médiété, vous voyez, c'est une espèce d'équilibre entre les vertus, équilibre entre plusieurs forces. Et c'est ce que cherchait Coubertin. Donc, jeune éducateur, pétri de psychologie et puis avec cette réflexion, en rupture de ban avec sa famille, famille aristocratique, mais il était plutôt, c'était un libéral fondamentalement, Coubertin, il était plutôt ouvert aux thèses de la République et il était pas, sa famille était plutôt monarchiste et lui, sentait des choses qui pouvaient être un peu bloquées, un peu sclérosées ou un peu passéistes et c'était fondamentalement un homme qui voulait que l'humanité avance et c'était plutôt un tempérament de créateur et de créatif. Et ce Pierre de Coubertin donc s'occupait d'œuvres de jeunesse. Et il a croisé un dominicain qui s'appelle le père Didon, Didon, qui finalement était lui aussi un libéral, donc croyait énormément à la puissance de développement de l'individu, libéral voilà, dans un monde catholique dans lequel la part du collectif était assez importante, et puis dans laquelle on croyait énormément à la dimension très communautaire. C'était un homme qui réfléchissait beaucoup, qui avait un caractère très fort, qui aimait mener des projets. C'était un meneur d'hommes. On imagine quelqu'un d'assez voilà comme ça, d'assez sanguin et colérique. Il aimait le lien et puis une forme de lyrisme aussi dans tout ce qu'il disait. Et le père Didon s'occupait d'un patronage qui était en banlieue parisienne à Arcueil. Et il y a eu cette rencontre entre Coubertin, patronage laïque, Didon, patronage religieux. Et Coubertin s'est dit, bah tiens, il y a un peu la France de la laïcité, un peu laïcarde, et puis la France des patronages, la France chrétienne. Et le sport, la rencontre sur le terrain sportif, peut unir aussi ces deux réalités comme deux poumons qui pourraient respirer un peu ensemble. Et il a voulu créer une compétition sportive entre ces deux équipes. Alors cette compétition a eu lieu, et puis surtout s'est nouée une très belle amitié entre Coubertin et Didon. Et Coubertin a exposé au père Didon son projet un peu de réactiver les Jeux Olympiques. Et Didon lui a dit, je serai avec vous. En gros, je vous bénis. Et allez-y, continuez à avancer sur ce projet. J'en serai. Et il a dit, j'en serai. Et c'est intéressant parce que il a fait confiance à Coubertin, qui était un peu plus jeune que lui. Il l'a béni. Il l'a envoyé. Et puis il a dit, tenez-moi au courant, mais quand vous aurez besoin de moi, je serai là. Je serai là. Je vais pas sortir de mon couloir. Moi, je suis un religieux. Mon boulot, c'est pas d'être dans la société civile laïque. Mais je vous bénis et je suis associé par la prière et par mes encouragements à votre projet. Et puis quand vous aurez besoin de moi, je serai là. Et quand Pierre de Coubertin a fait appel au père Didon, le père Didon est venu. Il est venu pour célébrer des messes olympiques au moment des premiers Jeux olympiques, 1896, pour donner des interventions devant le comité olympique. Il y avait des instances comme ça, vraiment de réflexion, en particulier autour de l'éducation. Et le père Didon était là pour en parler, était là pour enseigner. La France était à l'époque assez catholique et il y avait de grands éducateurs chrétiens. Et il y avait vraiment ce souci de la conscience, de la droiture, de la cohérence dans l'esprit des jeunes Français. Il y avait certes un contexte patriotique, mais il y avait aussi chez les religieux cette volonté que l'âme soit apaisée, que tout ce qui est contradiction interne, injonction contradictoire, addiction, tentation, amollissement, tout ça soit, j'allais dire, soit unifié. Et puis, j'aime beaucoup la chanson du Veni Creator, que ces lignes soient rendues, voilà, ça soit rendu droite. Tout ce qui était courbe, tout ce qui était sinueux, tout ce qui était anguleux, bah, que ça soit un peu apaisé et unifié. Et il y avait une vraie expertise des éducateurs chrétiens auprès de la jeunesse. Et Didon en était. Et lors de la. On a différents projets dans Holy Games. On a vraiment souhaité valoriser un peu ce que disait l'enseignement du père Didon. Et le père Didon avait fait une intervention assez incroyable lors de ce comité olympique. Et cette intervention, j'ai eu l'occasion de la lire devant le parterre de personnes qui étaient là pour l'inauguration de cette chapelle Notre-Dame des Sportifs à la Madeleine. S'il y a des auditeurs parisiens, ils sont vraiment invités à partir de maintenant, pour ce début d'année jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, à aller déposer un cierge, à prier pour des sportifs, s'ils sont eux-mêmes sportifs, à confier leur activité sportive à la Vierge Marie. Cette chapelle Notre-Dame des Sportifs est ouverte tous les jours dans la Madeleine. La Madeleine est pas loin, sera au cœur un peu du dispositif olympique pendant les Jeux Olympiques. Là, elle est tout près de la fan zone pour la Coupe du Monde de rugby. Et ça sera un lieu de recueillement pour les sportifs. Ça sera un lieu d'intercession pour confier au Seigneur toutes les personnes qui sont engagées dans le monde du sport. Et puis, ça sera un lieu d'action de grâce également pour remercier le Seigneur pour la joie, les tressaillements que nous pouvons éprouver dans les actions sportives. Je ne peux pas résister à la tentation de vous lire quelques passages de cette intervention du père Didon devant ce comité olympique. C'était en 1897 au Havre. Et quand j'ai eu l'occasion de lire ce petit texte à la Madeleine, les gens ont beaucoup aimé parce qu'il y a une fraîcheur dans le style et en même temps on sent une détermination. On parlait vrai. Et voilà. Et donc je vais vous lire un peu voilà, ce petit passage. Le père Didon, alors c'est pas spirituel du tout, c'est très éducatif. Donc on n'est pas sur des grandes envolées où il invoque la protection divine des archanges gardiens, des saints. Il convoque pas la Vierge Marie. C'est plutôt un éducateur qui parle à d'autres éducateurs. Son identité de prêtre était pleinement assumée. Il était en habit de religieux dominicain, en habit blanc. Mais il a partagé vraiment ses préoccupations d'éducateur. Alors voilà ce que dit le père Didon devant ce comité olympique qui vient du monde entier. Il leur dit les résultats obtenus par la pratique courante et habituelle des exercices de plein air et des sports athlétiques sont nombreux. Et je vous en signalerai les principaux. Voilà les vertus du sport évoquées par le père Didon. Le premier, c'est le développement et la multiplication de l'activité physique. Quand vous voyez des enfants inertes, paresseux physiquement, soyez certains qu'ils le sont moralement. Et quand vous voyez des enfants actifs jusqu'à la turbulence, soyez sûrs qu'il y a en eux des vertus en germe. Voilà la première chose qu'il voulait signifier. Et ça ne peut que faire écho à ce qu'on voit chez nos jeunes, parfois qui passent beaucoup de temps oisifs, avec les yeux explosés, injectés de sang devant les écrans d'ordinateur, ou traînant, voilà, se traînant un peu. Et lui disait, bah, il y a voilà, dans la mobilisation du corps, il y a des vertus en germe. Alors que, et je pense qu'il a raison quand on dit l'oisiveté est la mère de tous les vices, eh bien quelqu'un qui se traîne, ça veut dire qu'il n'entreprend pas, ça veut dire que même moralement, ça va pas fort, quoi. Donc c'était le premier point, c'était vraiment l'esprit de combativité et de lutte. Le deuxième point, c'est celui-là, l'esprit de combativité et de lutte. L'enfant commence par avoir peur. L'humanité est d'abord craintive et timide. Il faut qu'elle fasse preuve de vaillance, et pour cela, il est nécessaire de développer l'esprit de combativité et de bravoure, afin de ne pas se détourner de l'obstacle, mais de l'affronter et de le vaincre, ce qui réjouit les cœurs. Et c'est vrai que quand on réfléchit à toutes nos joies, toutes les petites joies qu'on a pu avoir, les joies un peu profondes, pas les plaisirs qui sont superficiels, chers amis auditeurs de Radio Maria, les joies que nous avons, eh bien les joies viennent toujours après un combat, après un renoncement, après une privatisation. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ce combat et de cette lutte dans le renoncement et cet esprit voilà, cet esprit de combat qui fait qu'on va au-delà de ce qu'on pense sont nos limites. Et quand on a un peu d'ambition et quand on arrive à réaliser cet objectif, et ça c'est intéressant parce que ça réjouit le Seigneur, il est là pour accompagner notre bonheur, eh bien quand on affronte et quand on vainc, ça réjouit les cœurs. Donc c'était la deuxième vertu qu'avait évoquée Didon. Le troisième résultat consiste à donner la force ou l'endurance et donc la patience pour ne pas reculer. Je constate que les jeunes sportifs sont tempérants et qu'ils sont très modérés en matière de plaisir. Ils ne fument pas, ne parient pas sur les champs de course, ils savent se priver pour un but supérieur. Et là, on est vraiment dans la cèse. Lors de la journée des prêtres du Congrès Mission, on avait demandé à, j'étais à Tours, on avait demandé à pas mal de prêtres de partager leur sport. Et un prêtre dit, bah, moi, c'est un peu Churchill, c'est no sport. Et il a dit, c'est la chaise longue. Et donc, j'ai rebondi en disant, ah, c'est l'ascèse longue. Et la question de l'ascèse, bah, c'est celle un peu voilà, du renoncement, de la patience, de dire, bah, j'y arriverai pas tout de suite, mais progressivement, progressivement, exercice après exercice, j'ai mon objectif, et eh bien, je pose des petits actes de renoncement, des petits actes douloureux qui vont être par exemple de courir de plus en plus plus en plus longtemps. Peut-être que si je fais de la musculation, d'alourdir mes poids, si je dois travailler, bien de travailler un peu plus, 10 minutes de plus, 20 minutes de plus. Ça peut être aussi dans la prière, c'est quelque chose qui se fait dans l'ascèse. Et bien finalement, qu'est-ce que ça fait? Ça nous nourrit, ça nourrit notre journée, ça nous donne des défis. Et donc tout ce qui peut être périphérique, eh bien on l'oublie. On fume pas, ou peut-être on va moins boire et on va moins se divertir. Et c'est intéressant ce qu'il dit, il ne fume pas, ne parie pas sur les champs de course. Et là, on était vrai à la fin du 19e siècle et on voit aujourd'hui, à travers les addictions, bah, il y a toujours cette question du tabac et puis des drogues légères et puis aujourd'hui du pari sur Internet. Et moi, ce qui m'avait toujours frappé chez les grands sportifs, les vrais sportifs, c'est que l'exercice du sport vécu en live sur le terrain avec l'équipement, c'est-à-dire l'équipement presque liturgique qu'il faut, donc on s'habille bien pour jouer au sport, et ben primait, était plus important que d'assister en spectateur à des matchs de leur équipe de cœur et voire à des matchs de l'équipe nationale. Et le vrai sportif, c'est le rugbyman qui va jouer au rugby parce qu'il avait prévu de jouer au rugby alors qu'il y a un match de l'équipe de France de rugby. Et ça, moi, ça m'avait complètement fasciné. Parce que moi, j'ai appris à aimer le sport, finalement, par procuration, devant mon écran de télé, à côté de ma radio. Et en rencontrant des sportifs, en passant 10 mois avec eux, dans cette formation que j'avais passée dans un master sur le sport, quand il y avait des grands événements sportifs télévisés, et ben, je me disais, ben, on va aller regarder ensemble. Et quand eux s'étaient engagés à pratiquer le sport, qui était un peu aussi leur activité religieuse, et ben ils disaient, bah non, ça passe avant. Et combien de chrétiens ont fait passer la messe avant des finales de Coupe d'Europe, de Coupe du Monde? Je me souviens d'une finale de Coupe du Monde de rugby où il y avait la confirmation d'une petite nièce et cette question qui était, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va à la confirmation? Est-ce qu'on est présent auprès du Seigneur, avec ce que ça suppose du coup de sacrifice, parce qu'on voulait tous vibrer en direct avec l'équipe de France, où est-ce qu'on offre ça? Et je me souviens, dans ma famille, il y avait eu beaucoup, beaucoup de débats sur le sujet. Et en tout cas, les sportifs, eh bien pour eux, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que le match télédiffusé, c'est moins important. C'est beaucoup moins important que le réel. Et le réel, pour nous chrétiens, bah, ça aurait été la vie sacramentelle. Et ça, c'est intéressant. Et enfin, comme quatrième vertu que le père Didon voyait au sport, je vous le dis, pour compléter ces résultats, je vous en signalerai un autre d'ordre civique. J'ai observé des petits groupes qui se formaient parmi les jeunes. Je n'aime pas l'esprit de coterie, cause de division et de faiblesse. En organisant les sports, en mêlant tous les groupes, j'ai vu que cette grande jeunesse est arrivée à faire la fraternité. Là est le génie politique, celui de réunir. Et il a vu très vite que il y avait des différences sociales, il y avait des différences parfois de niveau, et il a vu que le sport réunissait. Le sport par le leadership des entraîneurs, des capitaines, par l'intelligence de la règle, par la finalisation de l'effort. Parce que nos efforts sont tournés vers un but, celui d'être meilleur, et puis celui peut-être de s'engager dans une compétition, eh bien cela réunissait. Et cela permettait d'oublier des différences sociales, des différences raciales, des différences peut-être de tempérament, pour de façon solidaire bah, unir ces acteurs tendus vers un seul but. Le congrès mission, j'en reviens, donc c'est tout chaud, à travers la journée des prêtres en particulier, on a voulu un peu faire passer ces messages en disant, vous avez tous, chers frères prêtres, des histoires différentes, vous avez tous des sensibilités différentes, vous avez tous des terrains différents. Et là, vous êtes tendus vers cette urgence de l'évangélisation, on a fait prier un peu épaule contre épaule. Vous avez peut-être vu à la télévision les prières des Samoans, des Sud-Africains. À la fin du match, tous les joueurs se sont mis en rond, ils se sont agenouillés, ils ont montré le ciel, ils ont fermé les yeux et puis ils ont prié ensemble. Et à travers la journée des prêtres du Congrès Mission, c'est ce qu'on veut essayer d'exprimer. Ce sont des combattants, ils sont tous seuls sur leur terrain. Mais à un moment donné, après le combat, on est en début d'année, mais une année aussi s'est terminée. eh bien, ils sont tous épaule contre épaule. Ils sont à genoux devant le Seigneur. Souvent, on était devant le tabernacle. Et puis, le peuple de Dieu est à côté d'eux. On a mis la main sur l'épaule. Eux-mêmes avaient la main sur l'épaule de leurs voisins et tous les laïcs les entouraient, la main sur l'épaule. Et on a rendu grâce et on a voulu vraiment prier pour eux pour qu'ils soient un corps, pour qu'ils soient réunis, tendus vers ce but d'annoncer le Christ. Et donc, les divisions, elles sont anachroniques. Chacun a son histoire, sa sensibilité, chacun sur son terrain de jeu, mais il y a de la place pour évangéliser, il y a de la place pour annoncer le Seigneur. Et je voudrais un peu terminer là-dessus. Cette année olympique, bah, ça sera une année donc au service et au cœur autour de l'hospitalité. Et la mission repose sur cette hospitalité, sur le fait d'accueillir l'autre avec ce qu'il est pour lui donner le meilleur et puis pour se laisser aussi bousculer dans ce que l'autre a à m'apporter. Et c'est vraiment cette vision complémentaire, je trouve, que a pu apporter le cardinal Aveline. Dans sa théologie de la mission, qui n'est pas une théologie, peut-être, elle est une théologie qui est moins volontariste que celle qu'on essaie de pousser dans le congrès mission, où on est un peu esprit poussé dans l'esprit de Saint Paul. Voilà, on va vers les gens, on annonce le Christ ad extra. Et puis en même temps, alors ça rejoint aussi les tempéraments, cette annonce explicite de l'évangile, kérigmatique, doit s'accompagner aussi de ce qu'on vit dans l'apostolat de l'amitié, avec cette culture du dialogue où on s'oublie pour laisser de la place à l'autre. Et les Jeux olympiques et la confrontation sportive se nourrit de cette culture de l'hospitalité. Et puis avec derrière ben, des projets qui sont des projets concrets pour annoncer le Christ. J'ai évoqué cette chapelle de la Madeleine. Et puis on parlera de cette présence auprès des jeunes, de ces témoignages des athlètes, de ce monde du sport, que le sport vient creuser notre humanité. Et quand on creuse, creuse, creuse profond notre humanité, ben on touche à l'ineffable, on touche à l'espérance de la foi. Et c'est pour ça que ce dialogue entre le sport et la foi est si fécond. Voilà, donc je vous donne, chers amis de Radio Maria, ben, rendez-vous le mois prochain. Je pense que j'aurai peut-être un invité. On s'arrangera pour avoir un dialogue toujours sur cette fécondité de la vie sportive, de la vie dans l'esprit, pour que cette année olympique soit une année joyeuse. Et une année vraiment missionnaire avec cette respiration sportive qui est une respiration de vie avec le souffle de l'Esprit Saint. Belle journée à tous et à très bientôt. Vive le sport, vive Jésus!